Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui vous décrypte de manière intelligible et intelligente, enfin on va essayer, la technologie, Internet et les gadgets. Nous sommes en août 2019 et c'est l'épisode numéro 309. Bonjour à tous, et oui, ce n'est toujours pas Patrick. Patrick est toujours sous les cocotiers en train de siroter des cocktails avec l'argent des patriotes. Non, je plaisante, c'est Jérôme qui a pris les commandes. Nous sommes les forçats d'août et je suis accompagné comme casseur de cailloux du rendez-vous tech par Marion de Naotech. Bonjour à toi Marion, comment se passe ton mois d'août ?
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Rendez-vous Tech. Et écoute, le mois d'août se passe tranquillement à Paris.
Et je suis également accompagné par... Est-ce qu'on peut dire ex-youtubeur maintenant, Guillaume ?
Eh oui, la retraite a été enclenchée. Voilà, à 26 ans, je suis un retraité, un vieux de la vieille de YouTube.
Ah bah dis donc, avec la YouTube monnaie, déjà à la retraite, ça paye YouTube.
Là, 26 ans, c'est pas mal.
Eh ben ouais, mais là je suis dans les tropiques, petit cocktail à la main, tu t'en doutes bien. Bien évidemment, je suis à Toulouse, je ramène un petit peu de sud dans l'émission et je suis très très content d'être là. Jérôme, je suis très heureux que tu aies pensé à moi pour discuter de tous ces sujets croustillants.
Eh bien écoute, croustillant, j'espère. On va aborder effectivement, alors on est en août, hein, c'est sûr que les sujets tech sont un petit peu en berne. On nous sort pas mal de marronniers, hein, on en parlera justement tout à l'heure. On va aborder pas mal de sujets, mais on va dire que les gros dossiers que nous allons aborder ensemble, on va parler de la taxe sur le numérique, la fameuse taxe GAFA, le chassé-croisé franco-américain, et ça, il y a de l'actu et il y a du scandale, il y a du sang et des pleurs. On parlera également de Siri et d'Apple, puisque là aussi, dans le type marronnier et article de l'été, Siri nous espionne. Est-ce que Siri est seul à nous espionner ? On abordera ça. Et on parlera aussi de Cambridge Analytica, puisque une amende record a été infligée à Facebook. Est-ce que ça va empêcher Facebook de continuer ? On verra bien. Et puis, bien évidemment, après, on aura les news et rumeurs traditionnelles, où là, on va brosser un petit peu toute l'actu tech, internet et gadgets qui nous concernent. Donc, on va commencer effectivement par cette fameuse taxe GAFA. Alors, petit rappel des faits sur ce chassé-croisé franco-américain. Ça a été décidé, effectivement, la France aurait bien voulu que ça soit une taxe européenne, voire mondiale. Mais en fait, pour l'instant, la France, elle est un petit peu toute seule à proposer. Il faut rappeler, parce que c'est peut-être la chose la plus importante par rapport à cette taxe, c'est qu'elle est censée, effectivement, être une taxe transitoire. Le temps de trouver un accord au niveau mondial, au niveau de l'OCDE. Le sujet, d'ailleurs, devrait être abordé au prochain sommet du G7. Donc, il n'y a pas un consensus mondial sur comment il faut faire, mais il y a quand même une préoccupation mondiale de il faut taxer ces grandes entreprises du web qui sont passées maîtres dans l'art, effectivement, de la... Alors certains vont dire la dissimulation ou la fraude fiscale, d'autres vont dire l'optimisation fiscale. Et du coup, il faut trouver des moyens pour pouvoir taxer ces entreprises qui, et là encore une fois, je vais essayer de résumer les choses simplement, elles sont très fortes pour se refacturer entre elles, de pays à pays, pour diminuer leurs profits dans des pays donnés et finalement ne déclarer leurs profits que dans les pays où fiscalement c'est très avantageux pour eux. Mmh. Et le résultat aujourd'hui, c'est que des entreprises, on prend au hasard Google, payent environ 9% d'impôts en France, alors que d'autres sont plutôt dans les 23%. Donc ça pose quand même un problème de fiscalité, ça pose un problème d'équité, d'équilibre commercial, parce que comment lutter contre des entreprises qui arrivent à faire ce type d'optimisation, c'est un petit peu le problème. Bref. Donc, la taxe a été votée en France et on a décidé de faire une taxe non pas sur le bénéfice des sociétés, mais sur le chiffre d'affaires. Donc, l'argent généré, par exemple par Google, Amazon, d'autres GAFA, le chiffre d'affaires qu'elles génèrent sur le territoire français. Et ça, à hauteur de 3%. Puisque c'est beaucoup plus facile de calculer effectivement quelque chose sur le chiffre d'affaires que sur le profit. Donc, la France a dit « Ok, bah nous, on fait ça ». Derrière, on a eu des réactions de Donald Trump qui a dit « Ok, bah si vous nous taxez nos entreprises américaines du web à 3%, nous, on va taxer les 20 Français ». Et là-dessus, il y a Amazon, et ça, c'est un petit peu le fait brûlant du jour, qui a dit « Ok, on prend un ». Acte donc de cette taxe, mais nous on fait déjà quand même beaucoup d'investissements et tout ça, on va pas pouvoir payer la taxe, donc la taxe va être répercutée sur les marchands du marketplace, les marchands français. On a averti hein, votre pays, mais ça va poser des petits problèmes effectivement aux marchands français qui du coup vont soit répercuter cette taxe sur leurs consommateurs en augmentant les prix, soit la prendre à leur charge et du coup diminuer leurs profits. Dans les deux cas, pour effectivement les marchands français du marketplace Amazon, ça risque d'être délicat. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous, Marion et Guillaume, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez lu un petit peu ce qui se passe? Marion, peut-être, commencer?
oui, j'ai suivi l'affaire, je trouve ça assez intéressant, ça montre un petit peu un problème plus large qui est à l'échelle européenne, en fait, des systèmes de taxation à l'échelle européenne, puisque là, on a quand même l'Irlande et le Luxembourg qui bénéficient en fait de ces optimisations fiscales. Et en fait, sans le soutien de l'Europe, la France est un petit peu seule en fait. Et donc évidemment, elle va un peu jouer à whack-a-mole. Enfin, je ne me souviens plus du nom en français, mais...
Oui, les trucs avec les tops, là, le marteau...
Écrase-marmotte. Non,
l'écrase-top.
Plutôt les tops, ouais. Donc voilà, essayer d'assommer
les
la taupe.
Les taupes. Qu'est-ce que c'est que ces deux personnes du Sud? On dit les taupes, pas les tops.
Alors, les personnes du Sud sont en majorité, donc en fait, tu n'as pas le droit de nous reprendre sur cet épisode.
Bon, d'accord. Donc, c'est des tops roses. Roses.
Voilà. Exactement.
Exactement.
N'est-ce pas, Jérôme? Et Guillaume? Donc, c'est en fait, c'est plus un problème européen. Et donc, tant que la France est toute seule, ça va être un petit peu compliqué. Et en effet, Amazon ou les autres, donc là, pour l'instant, on n'a eu qu'une réaction d'Amazon, ils vont potentiellement pouvoir répercuter justement cette taxe sur les TPE et PME françaises qui vont potentiellement, même si certains ont dit qu'ils ne le feraient pas, le répercuter sur les Français. Enfin, à un moment donné, c'est les Français qui vont payer, quoi. Que ce soit les sociétés françaises ou les consommateurs français. Voilà, c'est mécanique, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une solution. Et donc, c'est vrai que quand on a Mounir Majoubi qui dit, évidemment, il n'est pas content, c'est exactement pas l'effet qu'il escomptait, évidemment. Mais quand il dit, bon, bah, maintenant, c'est la responsabilité du consommateur de ne pas consommer Amazon, même si on est content qu'Amazon crée des emplois, donc il y a un double discours, c'est la responsabilité des consommateurs français de ne pas consommer Amazon, bah là, à un moment donné, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est un petit peu avouer l'échec de cette taxe GAFA. Là où ça va être vraiment intéressant, ça va être donc fin août, au moment où il va y avoir justement le rassemblement pour le G7 du 24 au 26 août prochain à Biarritz. Donc là, ça va être intéressant de voir si la France a réussi à suffisamment mettre la pression pour encourager d'autres pays de l'Union européenne à ouvrir le sujet, le débat, et à faire quelque chose à l'échelle européenne. Ça va être très compliqué, parce qu'encore une fois, si on n'arrive pas à remettre en jeu un petit peu les règles de taxation à l'échelle européenne, je ne suis pas sûre qu'on arrive à quelque chose de vraiment très concret. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume.
Bah, déjà, ce que j'en pense, c'est que bon, bah, c'est un petit peu scandaleux. Bon, c'est ma vision et mon avis est assez tranché, mais oui, c'est un petit peu scandaleux que bah, Amazon répercute ça sur les TPE et les PME. Mais il fallait s'y attendre, c'est pas nos copains. Et puis, bah, voilà, ces entreprises-là, c'est pas nos copains. Et eux, leur objectif, c'est de maximiser leurs profits. Bon, même si c'est une vision très manichéenne, je vous l'accorde, mais globalement, bah, on en voit la preuve là, aujourd'hui, avec ce qui se passe. Hein, voilà, bah, on les taxe à 3%. Eh bien, ils répercutent ça en France pour qu'eux n'aient pas à payer ces 3%-là. L'autre problème que je vois là et qui est un problème fondamental chez les GAFAM, c'est qu'ils bah, sont en situation de monopole et que dire aux Français bah, « acheter autre part », c'est compliqué. Je vois ma mère bah, je lui ai fait acheter quelques trucs sur Amazon, elle a vu que c'était super facile, super agréable. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour elle d'acheter autre part. Et il faut se mettre à la place de beaucoup de Français qui... Pour eux, ça peut être difficile de changer de boutique en ligne. Ils sont habitués à acheter parce que pour le coup, l'ergonomie d'Amazon est vachement bien faite. Et ça peut être super compliqué pour eux de dire bah non, va sur la Fnac où tu n'auras peut-être pas tout ce que tu cherchais sur Amazon avant, tout ce que tu avais. Va sur Cdiscount, va sur autre part. Ça peut être compliqué pour des gens. Donc voilà, le problème fondamental, la base du problème, c'est l'omniprésence et le monopole que Amazon a aujourd'hui. Et je suis le premier à être critiquable là-dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup acheté sur Amazon. Heureusement, je le fais moi aujourd'hui, j'ai annulé l'abonnement premium et tout ça. Mais ouais, c'est tellement, tellement bien fait, Amazon, que je comprends que ça soit difficile d'en sortir. Et on est un peu, selon moi, dans une impasse. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie alternative, une très bonne alternative au niveau d'Amazon. Mais on n'a pas ça aujourd'hui, donc compliqué.
Oui, puis, bon, moi, je pense que, alors, c'est plus un homme d'État, mais quand même un homme politique français qui dit la solution à ce problème-là, c'est que les Français boycottent un système de distribution de vente. C'est un peu un aveu d'échec. Oui. Et une solution, quand même, on se dit, mais... Ils auraient pu anticiper la réaction d'Amazon. Et sans parler de la réaction qui va arriver derrière de Google. Le truc qui est très dangereux, c'est que ce qui est en train de décider Amazon par rapport à cette loi, ça risque de faire, pas jurisprudence, mais tache d'huile, les autres Criteo. Parce qu'il n'y a pas que Amazon, Google et tout ça. Il y a d'autres grosses boîtes, Rakuten, Criteo, etc., ouais, qui sont concernées, attendent un peu de voir ce que vont faire Amazon, Google et tout ça, et décider ensuite de comment elles vont répercuter cette taxe. On n'aurait pas pu un petit peu anticiper ça. Alors, est-ce que la France a juste décidé cette taxe GAFAM en restant seule, en partant finalement sans alliés, pour marquer un peu le coup, pour dire bon bah nous on y va et qui même me suivent. On le verra au G7, comme le disait Marion. Est-ce que les autres vont suivre? Mais s'ils suivent pas, on va se retrouver quand même un peu une main devant, main derrière, et c'est un peu une situation délicate, quoi.
Ce qui est rigolo, c'est quand, là je viens de chercher sur le net là, en 2014, t'avais déjà la loi anti-Amazon, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu la France qui avait interdit aux sites en ligne de faire des frais de port gratuits pour les livres, et Amazon qui avait foutu la livraison à 1 centime pour contrer ça, et ouais, comme quoi, hein, c'est triste, mais pour l'instant, l'autre tentative que je connais, hein, moi, n'a pas marché non plus, donc quelle est la solution? J'ai peur que ça soit encore une question ouverte. Hein.
En tout cas, après, moi, je conçois que nous sommes... la France est une nation, elle a un droit souverain de décider de comment le commerce est régulé. Mais il est naïf de croire que du commerce comme ça s'arrête à nos frontières et que partir sur ce type de taxe sans avoir d'alliés, c'était peut-être quand même un petit peu extrêmement dangereux. Parce que Amazon peut répercuter ça sur les marchands français et donc pénaliser spécifiquement les Français. Si l'Europe et, on va dire, les grands pays d'Europe s'était serré les coudes et avait dit bah c'est comme ça que ça va se passer, Amazon n'aurait pas été libre de dire bah on répercute ça sur tous les marchands Amazon, parce que là il se tirait vraiment une balle dans le pied.
Oui, là... mais là tu touches à un problème encore une fois de fond et que je trouve passionnant. Je cacherai pas que je suis pro-européenne, mais pour moi on touche à un vrai problème européen aujourd'hui et qui met l'Europe en situation compliquée, parce que si elle n'est pas capable de rapidement de montrer l'intérêt à l'échelle du monde et la force, la solidarité qu'il peut y avoir entre les pays de l'Union européenne, on va au-devant de quand même de grandes complications et de la remise en cause du système européen même. C'est-à-dire, va essayer de défendre auprès de l'Irlande et du Luxembourg, qui bénéficient évidemment de l'attractivité de ces pays-là. Hein, je veux dire, essaye de compter le nombre d'emplois qui sont créés, car il y a beaucoup de sociétés qui ont leur siège européen en Irlande ou au Luxembourg. Donc évidemment qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en cause les règles. Et on l'a vu il y a quelques mois ou quelques années, quand on avait demandé à l'Irlande, je crois, de renvoyer l'argent que Google, je ne sais plus qui leur avait payé, alors que la France aurait dû le toucher, etc.
Mais de toute façon, bon, après, on arrive dans des problèmes européens, mais il y a une compétitivité entre les pays européens qui n'est pas que saine et qui nous empêche effectivement de nous serrer les coudes, et spécifiquement sur le cas d'Amazon. Et là, je pense aux consommateurs. Qu'est-ce qui risque de se passer si les prix augmentent sur Amazon.fr? Eh ben, les consommateurs, ils vont aller voir chez Amazon.UK et puis Amazon.Allemagne, etc. C'est ça que moi, j'ai du mal à comprendre. Mais après, les gens vont me dire, c'est compliqué, tu peux pas comprendre. Mais j'ai du mal à comprendre qu'il y a autant de compétition entre les pays européens, alors que normalement on essaie de bosser ensemble, quoi. Mais bon, je suis naïf.
J'espère pour le coup que le RGPD qui a quand même permis d'avoir un socle commun sur la confidentialité des données des utilisateurs permettra de montrer un exemple positif qui peut du coup ouvrir la voie à d'autres socles communs sur le même principe, quoi.
Je pense qu'on est un peu dans cette phase du cycle où on a un peu oublié les guerres. C'est con, hein, ce que je dis, mais je pense qu'on est un peu dans cette période-là où les pays ont oublié que faire ça, avoir une concurrence forte sur des questions, pour le coup, là, économiques, engendre des tensions et des conflits. Et je prie de tout mon cœur que ça s'envenime pas. Mais voilà, je suis un peu... j'ai un petit peu peur de ça, que... Et la Deuxième Guerre mondiale, elle est arrivée comme ça, hein, des grosses tensions économiques. Alors, je sais pas, je connais pas ça en détail, mais je sais que c'est, c'était à la suite de ce qui s'était passé, où l'Allemagne avait été durement attaquée après ce qui s'était passé en 14-18, et ce qui avait entraîné l'inflation, oui, et puis le fait que la valeur allemande, enfin la monnaie allemande, ait perdu beaucoup de. De valeur. Bon, je suis pas du tout un expert et vous le sentez dans ma voix, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on est dans une période où on a énormément de tensions et on a oublié que se serrer les coudes, c'était le meilleur moyen. Et personne est prêt à faire des sacrifices et c'est très dangereux.
Il y a vraiment un problème. De toute façon, le Brexit est aussi symptôme de ce mal-être européen, et tout ça fait le jeu des États-Unis et de la Chine au niveau commercial, et là on le voit bien. On est beaucoup sorti du sujet, mais c'était intéressant quand même. Je pense que
pour le coup, on n'est pas sorti du sujet. Hein. C'est quand même important, justement, de voir comment ces sujets de technologie impactent les sociétés, en fait.
On est vraiment
complètement là-dedans. Hein. Donc, je pense que c'est le vrai enjeu de l'Europe dans les années à venir. Et c'est quand même assez naïf de s'imaginer qu'un pays de l'Union européenne peut se présenter seul contre une société comme Amazon.
C'est assez français, hein, si on voit l'histoire française, mais bon.
Oui, après, ça peut donner l'exemple, ça peut donner des idées. J'espère honnêtement que ça donnera ça à la fin août.
Écoute, on verra en tout cas le G7, ça va être intéressant à suivre. Passons à un autre sujet brûlant de l'été, puisque il y a eu toute une série d'articles disant « Mon Dieu, Siri, écoute vos conversations », et même plus. Il y avait des titres type sexe, drogue et rendez-vous médicaux cantant les oreilles indiscrètes de Siri.
Il est un petit peu abusé, celui-là.
Mais alors, en fait, c'était le titre original de l'article du Guardian. Alors, avec Marion, on a traité cet article en début de semaine dernière dans notre émission matinale, et Marion, qui fait des véritables investissements, a ressorti un article, c'était de 2015, c'est ça, Marion? Ou 2016?
Oui, c'était 2015, oui.
2015.
De Numérama,
oui.
De Guillaume Champeau.
De Guillaume Champeau, qui expliquait comment fonctionnait Siri. Et en fait, le fait qu'il y ait un échantillonnage de nos réponses à Siri qui soit analysé par... Est-ce qu'il précisait que c'était par Apple ou par des sociétés tierces en 2015?
Par des sociétés tierces, des prestataires.
Des prestataires étaient analysés pour assurer le bon fonctionnement de Siri. Donc, depuis 2015, ça dure et c'était inscrit dans les débuts de Siri. pourquoi, et ça, ça va être la première question qu'on pourra se poser, pourquoi en été 2019, The Guardian sort ce type d'article en disant « Mais c'est un scandale, on n'était pas au courant, 1% des conversations qu'on peut avoir avec Siri sont analysées par des sociétés tierces, donc pas Apple directement ». Bon, pour assurer le bon fonctionnement de Siri, et bon, c'est des données anonymes qui sont scriptées, mais où dedans il peut y avoir des choses confidentielles et quelqu'un qui mènerait l'enquête pourrait remonter pour retrouver l'identité de quelqu'un, etc.
Donc, ce que tu dis est important, c'est donc pas l'audio hein, qui est partagé, c'est oui. Retranscription écrite.
Écrite, effectivement.
Donc alors, on n'a pas le ton de la voix, on n'a pas l'identification du sexe, etc.
Il y a pour comprendre pourquoi cet article émerge en ce moment, il faut aussi réaliser que c'est pas que le problème d'Apple avec Siri. C'est-à-dire que ces pratiques-là, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est aussi Alexa, c'est aussi Google Assistant.
Très certainement, oui.
En tout cas, les articles le disent, puisque pour assurer le fonctionnement d'une intelligence, pas artificielle, mais d'un assistant personnel, il faut analyser ses erreurs, en fait. Pourquoi elle a répondu complètement à côté de la plaque quand je lui ai demandé la météo. Et tout ça permet à ses assistants de s'améliorer et d'apporter des réponses de plus en plus pertinentes. Quelque part, on pourrait dire que ces assistants personnels ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un feedback, en tout cas un feedback échantillonné sur les erreurs réalisées par ces assistants personnels. Mais à votre avis, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une tonne d'articles ces derniers temps sur le fait que Apple, à travers Siri, espionnait nos conversations. Pourquoi ça sort en ce moment alors qu'on le sait depuis 2015 ? Une réponse ?
Pourquoi ça sort maintenant ? Parce que je pense que quand on est en été, l'actu est un peu plus légère, donc c'est un bon moyen de faire un papier. Première chose. Après, deuxième chose, je pense qu'on est dans une période de la tech qui est intéressante, dans le sens où on a eu beaucoup de scandales sur la vie privée qui ont émergé. On a eu le RGPD, au final, très récemment aussi. On est dans une phase de la tech et Apple aussi qui fait ses pubs énormes à New York et aux États-Unis de what is in your iPhone stays in your iPhone. On est dans une période où on met de plus en plus l'accent sur la vie privée et moi je trouve ça plutôt positif quand même. Et à mon avis, il y a une sorte de lien entre tout ça où dès qu'on peut parler de vie privée en essayant de montrer que quelque chose va pas bien ou dès qu'on peut faire un article un peu là-dessus, ben à mon avis, on le fait et c'est pas plus mal. Et je trouve que l'article, en tout cas celui de Siècle Digital, est plutôt pertinent. Ça permet d'informer les gens que oui, il y a un pourcentage de ce que vous dites qui est analysé par des humains. Et je pense que c'est une bonne chose.
Marion, une réaction à ça ?
Ma réaction, c'est... disclaimer, j'ai travaillé pour des sociétés tech et je continue à travailler pour des sociétés tech. Et donc, du coup, la pratique en elle-même d'échantillonner et vérifier que les requêtes et la réponse aux requêtes est de bonne qualité, c'est aussi pour pouvoir améliorer le service, quoi. Et c'est quelque chose de pratiquer de manière systématique. J'ai pas bossé dans toutes les boîtes tech, mais bon, c'est quand même une pratique qui se fait et pas que dans les boîtes tech. On va prendre un échantillon, l'analyser pour voir si la qualité est là. Et si c'est pas le cas, on va essayer de comprendre pourquoi pour améliorer le produit. Et donc, du coup, j'étais déjà au courant de ça. Hein. C'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment étonnée. Le fait que ce soit des retranscriptions écrites, qu'on ne puisse pas associer les identités, etc. Honnêtement, on va peut-être me prouver par A plus B qu'on peut identifier une personne avec les requêtes retranscrites. Alors évidemment, on peut tomber sur une requête qui pose une question tellement personnelle qu'en fait, soit l'utilisateur a communiqué une coordonnée bancaire, soit son nom et son prénom dans la requête, etc. Très bien. La majorité vont être des requêtes complètement anodines, entre guillemets. Et voilà, et donc les échanges débats sexuels, il y en a qui vont être catastrophés. Mais je veux dire, les échanges débats sexuels retranscrits à l'écrit, je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de personnes, quoi.
Vous êtes bien connu, je pense.
Enfin, je ne sais pas, mais...
À base de nomatopée, ça doit être très rigolo.
On n'a jamais eu de sextape retranscrite à l'écrit très intéressante, quoi.
Si, moi je récite du Cyrano de Bergerac. Hein.
Non, et puis voilà. En plus, juste Marion, juste je rajoute quelque chose, les gens qui analysent ça sont aussi des gens aléatoires. Donc oui, d'autant fait, plus ça minimise quoi.
Ils ont signé un NDA, enfin je veux dire un non-disclosure agreement, un contrat qui fait qu'ils n'ont pas le droit de communiquer sur les données sur lesquelles ils travaillent. C'est quand même la base de ce genre de choses. Quand tu analyses des échanges avec des consommateurs, etc., tu garantis un minimum la confidentialité des données échangées. Donc évidemment, moi, je ne me suis pas affolée, ça ne m'a pas étonnée, et ça ressemblait plus à on n'a rien en actualité de croustillant actuellement. Bon, on va ressortir un vieux truc. Bon, ça tombe bien, la donnée privée actuellement, ça cartonne. Bon, on va remettre ça au goût du jour. Alors, je suis un peu méchante quand je dis ça. En effet, l'angle du règlement général de la protection des données qui est sorti, qui a été validé en mai 2018, et la sensibilisation générale du grand public concernant le traitement de ces données privées, qui est quelque chose d'extrêmement positif, et on avait besoin de cette prise de conscience, donne un éclairage et une mise en avant de cet article intéressante. C'est vraiment important que les gens prennent conscience de comment leurs données sont utilisées.
Ouais.
Maintenant, le ton catastrophique et le ton scoop, on n'a jamais vu ça et c'est tout nouveau. Ouais. Moi, mérite profondément.
Oui, oui,
sexe, drogue et rendez-vous médicaux, on dirait le titre d'un film, hein, quand même.
Sex and Sin, quoi.
Voilà, ouais. Sorita, dès le début de la sortie de Siri, voilà, les conditions générales d'utilisation font mention que, etc. Ils auraient mené un travail journalistique objectif en citant le contexte et les faits, vraiment. Ça ne peut pas donner la même chose. Et en expliquant que avec l'importance du RGPD qui est passé en vigueur en 2018, c'est important de revenir sur ça. Ça, j'en conviens tout à fait. Mais là, le ton de l'article est quand même
Et du coup, de tous les articles qui ont suivi derrière, c'est peut-être ce que tu disais, Guillaume, tu as tout à fait raison, c'est une bonne chose qu'il y ait une prise de conscience. Mais aujourd'hui, la prise de conscience, on a presque l'excès inverse. C'est-à-dire on est passé d'une naïveté, d'une ignorance, parce que ça nous arrangeait d'ignorer hein, comment tout ça fonctionnait, maintenant une paranoïa disproportionnée et une mauvaise compréhension et un mélange entre espionnage, traitement de données, vente de données. Mais tant mieux, bon, tout ça va s'expliquer dans le temps, je pense que... Mais les réactions des gens sur Twitter par rapport à ça sont... également disproportionné par rapport au je m'en foutisme qu'ils avaient il y a pas si longtemps. Ça qui peut énerver. Quand même, le résultat de ça, Apple s'est aperçu, et effectivement, comme tu le disais, Guillaume, mène une grande campagne sur la vie privée. Moi, comme je l'avais dit dans une vidéo, peut-on faire confiance à Apple? Quand on se réclame le chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un peu sale, ce genre d'histoire, pour Apple. Donc là, ils ont décidé d'arrêter complètement les écoutes. Google aussi, ça c'est la nouveauté du jour, a dit qu'ils arrêtaient aussi ce système-là pour mettre au point... Alors, on peut plus le faire chez Google que chez Apple actuellement, de désactiver ça de manière assez simple. Désactiver, en fait, l'écoute qui pourrait contribuer à l'amélioration du produit. Tout le problème pour ces sociétés, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que, comme disait Marion, on a besoin de ces informations-là pour améliorer le produit. Il y a un moment, les assistants personnels n'évolueront pas si personne ne leur donne du data, s'ils n'apprennent pas à interagir avec les humains qui les utilisent. Donc, ça va être problématique. Peut-être qu'une des solutions, c'est de je vais utiliser un anglicisme, mais d'incentiver...
D'inciter,
voilà, par des bons d'achat, des trucs comme ça, les gens à aider ces assistants personnels à évoluer. Mais il faut, dans le cas d'Apple, qu'on ait des systèmes beaucoup plus clairs pour dire « Non, je ne veux pas que mes données servent en aucune façon à améliorer le produit. » Voilà.
Je pense qu'on l'a toujours eu et on l'aura demain. Et voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus. Hein. Quand tu installes une mise à jour macOS, tu as une étape au moment de l'allumage de ton ordinateur après une mise à jour qui dit est-ce que vous souhaitez envoyer les rapports d'erreur et participer à l'amélioration constante de macOS et du produit. Tu dis oui, tu dis non, bref, tu choisis ce que tu veux et c'est clair. Et c'est pas complexe.
Oui, je suis d'accord, mais...
Oui, la plupart des OS ont ça, heureusement.
Ouais, mais Apple, Apple, qui se fait maintenant le chantre de la protection de la vie privée, devrait faire la même chose qu'ils font avec la géolocalisation, c'est-à-dire faire des rappels réguliers. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que Siri utilise vos données dans le cadre de l'amélioration de Siri ? Et faire des rappels réguliers aux gens.
C'est pas ce que requiert le RGPD. Hein.
Oui, mais, c'est ce que requiert, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que requiert une campagne de pub comme Apple est en train de nous faire, de grands défenseurs de la vie privée.
Non, je pense pas. Et alors là, je suis vraiment foncièrement contre, parce que sinon, on va transformer la confidentialité en chose très contraignante pour tous les utilisateurs, où à chaque fois ils vont être pingés par tous les services continuellement, tous les mois, pour savoir si on veut encore utiliser leurs données. Et franchement.
L'équilibre est très dur à trouver. Hein.
C'est ça, il faut trouver l'équilibre. Et encore une fois, le RGPD est là pour donner un socle ou en tout cas des conseils sur comment mieux le mettre en place. Et il y a une des règles, c'est le délai de conservation de ces données-là. Il y a un délai de 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, où tous les 3 mois, ou en tout cas une donnée ne doit pas être conservée plus de 3 mois sur un utilisateur. Tu ne peux pas construire une base historisée des conversations d'un utilisateur. Et très bien, ça marche aussi. De toute façon, le langage évolue dans le temps, donc en fait, c'est assez pertinent aussi. Donc, je pense qu'il faut, comme tu dis, Guillaume, trouver le juste équilibre. Et je pense qu'aussi, le fait qu'ils aient dit... qu'ils communiquaient sur le fait qu'ils allaient arrêter justement la transmission de ces restitutions écrites, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas en accord avec le règlement général de la protection des données, et que comme cet article va le mettre en lumière, ça va attirer évidemment l'Union européenne sur ce sujet, et ils vont évidemment avoir envie de faire une enquête sur ce sujet bien précisément. Ouais. Et donc là, pour montrer patte blanche, ils ont décidé d'arrêter préemptivement cette pratique-là, qui est
logique. Oui, voilà, est-ce que tu es quand même... Est-ce que tu es quand même juste d'accord que Apple doit faire encore plus attention que les autres, du fait de leur campagne marketing ?
Je suis d'accord qu'il faut qu'ils fassent plus attention que les autres, parce que c'est leur argument marketing. Ouais. Maintenant, ce n'est pas en mettant des pop-up toutes les semaines, quoi.
Non, mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'Apple a trouvé un assez bon équilibre. Moi, je reçois une notification par semaine sur une app et Apple me demande est-ce que je suis toujours d'accord pour que telle app... Et de temps en temps, je me dis, mais non, cette app, je ne l'utilise plus. Donc, je ne donne pas l'accord et je désinstalle l'app. Moi, je trouve que c'est un bon équilibre. Mais...
Je serais très intéressée de voir le taux de personnes qui lient attentivement la pop-up qui arrive sur la gestion de la géolocalisation versus le nombre de personnes qui machinalement vont dire OK.
Le truc, c'est que je trouve que ça a une vertu, c'est que ça me rappelle, moi, constamment, qu'il y a des apps que je n'utilise pas et qui me demandent encore du data ou qui exploitent encore la géolocalisation. Moi, je trouve que c'est pas mal, même à titre pédagogique.
On est biaisé parce que nous, on est très fan de tech et c'est vrai que ces messages-là, on va y faire très attention, mais c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde vont faire un petit peu moins attention. Juste pour en revenir à l'article, si moi je peux donner un petit conseil, les assistants vocaux, c'est vachement bien et tout, mais effectivement, avec ce genre d'article, ça nous rappelle que il faut être prudent. Moi, ce que je recommanderais à tous ceux qui ont des assistants vocaux, c'est effectivement de pas activer la détection vocale. Je sais que c'est pénible, parce que c'est quand même un des gros points forts des assistants vocaux de pouvoir dire les phrases clés. Mais c'est vrai que ce que vous dites va dans les serveurs des grosses entreprises et on ne sait jamais comment ça peut être utilisé. Donc, des assistants vocaux, trop bien. Moi, pour le coup, je suis quand même resté chez Apple très longtemps. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment l'activer que, par exemple, en gardant le bouton Power appuyé sur les iPhones ou le bouton Home, parce que c'est sur les anciens, c'était le bouton Home. Je sais qu'un truc que je faisais par rapport au boulot, c'était que mon Google Home, quand j'en avais un à l'époque, je le laissais à mon studio et je la menais pas chez moi. C'est ma vision très personnelle de la vie privée, mais je considère que chez moi, c'est chez moi. Et que j'ai pas envie que d'être écouté et on sait jamais comment ces données pourraient être utilisées. Chacun fait comme il veut, je juge pas. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais c'est un conseil.
Exactement, et on passe au quatrième sujet brûlant, au troisième même, je ne sais pas pourquoi j'en ai rajouté un, au troisième sujet brûlant de l'été, Cambridge Analytica, le nom qui fait trembler Facebook, puisque 5 milliards de dollars, une amende historique, qui n'arrêtera pas Facebook. C'est le titre, effectivement, du Courrier international sur cet article. Rappel des faits, les autorités américaines ont infligé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook en disant que Facebook avait effectivement trompé ses utilisateurs quant à l'utilisation de leurs données personnelles. C'est aujourd'hui l'amende la plus importante qui a jamais été imposée au monde pour une violation de la vie privée.
Ah ouais.
Ouais. Ce que déclare effectivement la FTC, c'est que Facebook, donc le réseau social, n'a pas été honnête dans sa manière de gérer l'accès des développeurs d'applications, des publicitaires et d'autres aux données personnelles des utilisateurs. Je vais pas vous rappeler toute l'affaire Cambridge Analytica, mais en gros, ça a été effectivement l'utilisation des données d'utilisateurs et, ce qui est considéré comme plus grave, des données des amis des utilisateurs. C'était à base d'un questionnaire, des gens ont rempli ce questionnaire, et Cambridge Analytica a non seulement tapé dans ce data-là, mais également en prenant le nom, les amis Facebook de ces gens-là, pour dresser des profils. Des profils qui ont, en tout cas c'est l'hypothèse de travail, auraient fortement influencé l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. On parle également d'influence autour du Brexit, avec effectivement un profiling,
un profilage
politique de personnes qui doutent. Au moment des votes, des gens qui doutent, et ça a permis de placer de la publicité très orientée pour conditionner le vote de ces gens-là. C'est ça qui fait scandale avec Cambridge Analytica. Ouais.
Parce qu'aux États-Unis, la publicité pour des partis n'est pas interdite. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude, mais aux États-Unis, tu peux avoir de la publicité à la télé.
Ouais, mais alors attention, il n'y a pas que de la pub. Et en France, on sait que tu peux aussi mettre des articles, tu peux mettre choses qui vont influencer en fait le vote de quelqu'un. Si une personne, tu vois, elle hésite entre deux partis et que tu la bombardes avec des articles sur l'immigration, etc., tu vas faire basculer son vote. Tu vas la mettre dans une bulle en fait de pensée. Qui va conditionner en fait son vote et qui va influencer son vote. Et c'est ce qui est très grave.
Oui, c'est dangereux, oui.
Alors, pour en revenir à cette amende de 5 milliards de dollars...
Pour faire une petite précision aussi sur... Parce que là, on parle que de Cambridge Analytica, mais de manière plus générale, en fait, il y avait un petit problème quand même avec l'API de Facebook, hein,
oui.
Qui, avec d'autres partenaires, donnait accès aux données d'amis, quoi, à d'amis tiers, etc. Donc, du genre Microsoft et Sony... où Facebook s'est aperçu en 2019 que l'accès n'avait pas été coupé, hein, après le scandale Cambridge Analytica, ce qui est quand même génial, et ce qui montre la complexité du développement de services de Facebook, parce que je pense pas qu'honnêtement il l'ait fait exprès. Là c'est tellement gros que je pense que juste c'est compliqué dans le code de Facebook de pouvoir retrouver toutes les occurrences, etc. Ils n'avaient pas coupé l'accès à Microsoft et Sony et donc potentiellement d'autres partenaires jusqu'à cette année, quoi.
Oui, et ce qui est important à comprendre, tu fais bien de faire ce rappel, mais d'une manière générale, moi je vois souvent des gens qui me disent « Mais non, Facebook ne vend pas des données, ils vendent l'espace publicitaire qu'ils fabriquent avec les données des gens. » Non. Là, dans le cas de Cambridge Analytica et d'autres affaires, il y a une vente directe quand même de données, en tout cas d'ouverture de l'API à des sociétés tierces. Donc, il y a effectivement... Bien souvent, ce n'est pas de la vente directe de données, mais de la vente d'espaces publicitaires avec ciblage grâce aux données des gens. Mais il y a eu aussi, et dans le cas de Cambridge Analytica, de la vente directe de données de la part de Facebook, quoi. Donc, c'est ça qui a été sanctionné par la FTC. Pour en revenir justement à cette amende paraît record. C'est quand même 5 milliards de dollars, c'est quand même assez beaucoup. Énorme. Mais... Certains disent, et notamment deux membres démocrates ont dit que l'amende n'était pas assez sévère et qu'elle ne ferait pas évoluer Facebook. C'est-à-dire que c'est une bonne tape sur les doigts, mais ça n'empêchera pas Facebook de changer radicalement Et peut-être que ce genre d'erreur se reproduira. Et ces deux membres de l'agence auraient préféré une action en justice contre le PDG du réseau social, donc qui est carrément voilà un système judiciaire qui se met en place et que Mark Zuckerberg soit tenu responsable de l'honnêteté en fait dans la gestion des données de ses utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils doivent être tenus responsables au niveau pénal, les dirigeants de ces sociétés, que ça soit Twitter, que ça soit Facebook, que ça soit YouTube, Google, etc.
C'est tout le débat entre personnes physiques et personnes morales. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent que le système d'entreprise où l'entreprise est une personne morale est pas bon. Parce que dès que tu as effectivement un scandale, et il y avait eu ça par exemple avec les suicides chez Orange, je crois, enfin France Télécom à l'époque, où en fait les dirigeants ne sont pas forcément... alors j'ai pas suivi les news récentes, mais tu as vraiment ce système où c'est une personne morale, c'est l'entreprise, c'est pas moi, je ne suis pas responsable. Et c'est l'entreprise qui est condamnée. Et effectivement, ce système est fortement critiquable. Après, est-ce que faire condamner Mark Zuckerberg en personne, est-ce que c'est lui qui est le responsable complet de tout ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans les maillons de la chaîne qui sont tout autant, peut-être même plus responsables que lui. Et pour le coup, autant c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, autant j'ai un peu l'impression que Mark Zuckerberg se prend tout dans la face et que c'est un peu... C'est un peu le bouc émissaire de tout ce qui se passe. Donc, je sais pas trop, j'ai pas de réponse claire. Encore une fois, c'est pas un domaine où j'ai une grande expertise, le milieu des entreprises. Mais effectivement, ce concept de personne morale a des limites et je pense qu'on peut en voir une dans le cadre de Cambridge Analytica où, au final, il n'y a pas une personne physique qui va être inquiétée par les actions de Facebook.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Marion?
Pour moi, je suis pas vraiment d'accord sur l'idée de punir ou de cibler une personnalité au sein de la boîte, parce que pour moi, une boîte, c'est un système de valeurs, une société. Hein, quand je dis une boîte, en fait, c'est une société.
Oui, une société, ouais.
C'est un système de valeurs, et en fait, ces valeurs, elles sont communiquées à travers toute la taille de l'entreprise quand c'est bien communiqué, et donc elles sont portées par pas juste le CEO, mais en fait. Tous les employés. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'action que Mark Zuckerberg. Mais bon, Sheryl Sandberg, elle est très haut placée aussi. Et j'en sais rien si elle est impliquée dans l'affaire. Donc en fait, je pense que les proches de Mark Zuckerberg, ou en tout cas les proches de ceux qui détiennent le pouvoir sont aussi importants. Et donc, je ne pense pas que ça soit une solution. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver une solution simple à un problème complexe.
Oui, ça, c'est vrai.
Et en fait, ça ne marche jamais. Genre, déjà, par définition, on va droit dans le mur, quoi. On regarde le Brexit. Ah ben, on n'est pas content. Ah ben, on vote exit. Et puis après, on se dit, ah ben mince, comment on le fait, quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça résout ? Que dalle. Donc voilà, je pense que... Ce qui est intéressant, c'est notamment, au-delà de l'amende, c'était aussi le comité de contrôle qui va être instauré chez Facebook pendant je ne sais pas combien d'années. Je crois que c'était plus de 10 ans, je ne l'ai plus en tête la durée, mais où ils vont auditer un petit peu les prises de décision de Facebook, si c'est transparent, ce qui peut être encore challengé, évidemment. Mais ça, c'est intéressant. Mais en effet, pour mettre en perspective un petit peu l'amende qu'ils ont eue, donc de 5 milliards de dollars, à savoir, quand même, en 2019, Facebook a fait 15 milliards de revenus sur le premier trimestre.
Oui, 2019. Donc ça les a pas... Enfin, c'est une grosse amende, mais ça les mettra pas à genoux, hein.
C'est une très, très grosse amende, mais en fait, à l'échelle de la boîte et sur la perspective de développement dans le futur, quand on voit le chiffre d'affaires qu'ils faisaient en 2014 et celui qu'ils font en 2019, et qui, quand ils se projettent dans l'avenir, en fait, c'est quelque chose qui va être amorti et inclus dans les risques que la boîte va prendre, en fait. Et c'est comme quand on évalue quelqu'un qui va tricher au métro et sauter par-dessus la barrière, avec la chance, le pourcentage de chance qui tombe sur des contrôleurs. Est-ce que c'est plus rentable pour lui qu'il saute par-dessus la barrière ou qu'en fait, il respecte et qu'il paye son abonnement, qu'il respecte? Bah, en fait, là, très, très clairement, Facebook a pris l'autre alternative. Ils préfèrent payer que changer leurs produits et leurs valeurs. Parce qu'en fait, là, ça touche au cœur du fonctionnement de Facebook et des valeurs de la boîte. Ouais. Là, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait spéculer.
Il faudra voir effectivement dans l'avenir, parce qu'au-delà des 5 milliards de dollars, il y a quand même cette affaire Cambridge Analytica au niveau de la notoriété de Facebook et de son image de marque. Ça coûte beaucoup plus cher que 5 milliards de dollars. Et je pense que... Et tu vois, le revirement qu'on voit... Alors, pour l'instant, c'est des intentions. Il faudra voir dans les faits si ces boîtes, Google, YouTube de Google, Twitter, Facebook, changent dans leur manière de fonctionner. Parce que l'opinion publique, c'est quand même leurs clients. Peut-être pas direct, mais la réputation de ces boîtes-là, c'est aussi quand même leur gagne-pain.
C'est ce que je pensais également. Et en fait, quand j'ai lu l'article sur la croissance, alors j'essaie de te retrouver la source, l'article sur la croissance de Facebook depuis l'affaire Cambridge Analytica, ça m'a scotché.
Ouais.
Littéralement scotché quand tu vois la croissance. Alors tu te dis ils auraient eu une meilleure croissance et encore plus rapide s'ils n'avaient pas eu le scandale. Mais en fait la croissance est tellement incroyable de 2014 à 2019 qu'en fait on y va quoi.
Le problème fondamental, par exemple, tu vois, dans tous mes collègues et tout ça, tous mes potes, on sait tous que Facebook c'est pourri d'un point de vue gestion des données et tout. Mais on n'a pas d'alternative. Et Facebook est tellement puissant aujourd'hui, en tout cas dans ma vie à moi, pour dire bah, « Tiens, un ami est intéressé par un événement. » Et j'ai trouvé plein d'événements à Toulouse ou sociaux, tu vois, où je me suis dit bah, « Cool, je vais y aller grâce à Facebook. » Et pour l'instant, aucune alternative est aussi efficace que Facebook. Donc en fait, on est sur Facebook par défaut, parce qu'on n'a que ça. C'est super pénible, mais c'est comme ça. Hein.
On en revient un petit peu à ce que vous disiez sur Amazon.
Il
n'y a pas vraiment d'alternative aussi grosse qu'Amazon où on peut quasiment tout acheter. Et Facebook, on aimerait bien qu'il y ait une alternative, mais il n'y en a pas vraiment. Quoi.
Ouais. Et donc, pour revenir un petit peu pour le chiffre, pour vous donner une idée, donc en 2017, avant que toutes ces histoires un petit peu se déroulent, etc., il gagnait dans le premier trimestre 7,9 milliards de revenus. Et après 2 ans, il gagne 15 milliards de revenus. Donc c'est quand même pas mal d'avoir doublé en 2 ans. Malgré les affaires, tu vois. Et donc, est-ce que ça va les motiver finalement? Est-ce qu'ils voient une conséquence? Bien sûr qu'ils doivent avoir...
Je pense quand même qu'à long terme, ça a des conséquences. Je suis d'accord avec toi. À court terme, de toute façon, la croissance de Facebook est tellement folle que l'affaire Cambridge Analytica n'allait pas faire un coup d'arrêt à la croissance. Maintenant, l'image à long terme sur des générations entières... et d'ailleurs, ça m'amène, on est obligé d'avancer dans l'émission, hein, on avance dans l'émission, ça m'amène à l'article suivant, puisque à une certaine surprise, le groupe Facebook a annoncé que ses produits, que sont Instagram et WhatsApp, ne s'appelleraient plus Instagram et WhatsApp, mais Instagram from Facebook... From Facebook et WhatsApp from Facebook. Alors, c'est pas la première fois qu'ils font ça parce que Oculus est déjà un produit par Facebook. Mais moi, j'étais assez surpris parce que côté consommateur, je me suis dit Instagram et WhatsApp finalement bénéficient d'une bonne image de marque et ils sont pas tachés par les affaires de Facebook. Donc pourquoi ils décident de signer ces produits-là du nom de la société? La réponse, en tout cas officielle, c'est donner une cohérence au groupe Facebook et que, voilà, rappeler aux gens que ces produits-là sont maintenant développés et évoluent avec les équipes de Facebook. Donc, quelque part, essayer de prendre un peu du bénéfique d'Instagram et de WhatsApp pour le ramener sur Facebook. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou au contraire, ça va faire que noircir l'image d'Instagram et de WhatsApp?
Marion, si tu veux commencer.
Bah, moi, je vais continuer dans ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, mon avis a relativement changé depuis deux semaines là, qu'on a vu les conséquences sur la monde de Facebook. C'est qu'en fait, nous qui sommes fans de tech et qui avons une vue très biaisée de qu'est-ce qu'est la technologie et comment le rapport des gens à la technologie, parce qu'on est des tech addicts, on va dire ça comme ça, je pense qu'on se fourre le doigt dans l'œil, en fait, en pensant que tout ce qui s'est passé sur Facebook et sur les problématiques de confidentialité, etc., depuis 2 ans, vont mettre en péril la puissance du groupe Facebook. Et en fait, c'est assez malin ce qu'ils font. C'est que Facebook a toujours voulu être une plateforme. C'est assez politique comme positionnement. Ils ont toujours voulu que Internet soit synonyme de Facebook, finalement, ou que Facebook soit synonyme d'Internet. Mais en fait, Facebook, c'est bien plus qu'une plateforme de réseau social comme il ne l'était au lancement. C'est aussi un service de messagerie via WhatsApp. C'est aussi une plateforme de partage de photos et de communication avec vos proches, etc. C'est aussi une plateforme de shopping. Et tout ça, c'est Facebook. Et donc, en fait, comme tu disais, ils veulent apporter la lumière de ces autres services et mettre en retrait potentiellement le réseau social. Donc, vous allez me dire, c'est bizarre parce que quand même, le réseau social s'appelle Facebook. Oui, mais finalement, moi, personnellement, j'y vais plus jamais sur le réseau social Facebook. J'ai toujours mon compte, mais en fait, j'y vais genre une fois par semaine. Je poste des trucs, etc., mais rien de très intéressant. Et en fait, Facebook ne fait plus partie, n'est plus sur le devant de la scène, le réseau social, mais en tout cas la plateforme, oui, à travers ses autres services, sa galaxie de services. Donc la plateforme Facebook est importante.
Et puis ceux qui sont soucieux de leur vie privée, en fait, ils iront de toute façon pas forcément sur Instagram. Donc qui est marqué Instagram ou Instagram from Facebook, ça va pas forcément eux les toucher, mais les plus de 90% des gens qui sont pas du tout au courant de Cambridge Analytica ou qui ont vaguement entendu ça, ils vont voir Instagram from Facebook, ils vont faire « Ah, il y a une mise à jour sur le Play Store. Ah, il y a une mise à jour sur l'App Store. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Bon, et bien on fait la mise à jour et voilà. Et ça changera rien à leur vie. Non, en vrai, moi, je trouve que... Puis en plus, ce que tu as dit, Marion, tout à l'heure, c'est super intéressant. C'est qu'en fait, bah, Facebook est en énorme croissance. Donc, c'est plutôt intéressant, même par exemple pour les actionnaires, d'avoir marqué « From Facebook » sur leurs produits, leurs produits annexes. Mmh. Moi, ça me paraît super cohérent. Effectivement, moi, ça me fait tiquer. Parce que bah, Facebook, d'un point de vue vie privée, bah, voilà, on sait tous que ce n'est pas forcément terrible. Mais d'un point de vue stratégie de groupe et d'un point de vue image, bah, en fait, oui, c'est une bonne stratégie, je pense, de rajouter un from Facebook sur leur produit. Voilà.
Eh bien, écoute, on verra les conséquences, mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense d'un point de vue entreprise et notamment vente d'espace publicitaire, c'est un bon mouvement marketing. C'est pas forcément pour les utilisateurs qui ont pas forcément envie de se faire rappeler qu'Instagram, c'est Facebook, mais en termes de cohérence de groupe dans la vente d'espace publicitaire, qui reste quand même leur cœur de business, c'est un assez bon mouvement de la part de Mark Zuckerberg et de ses équipes. On avance un petit peu. On va parler de l'actualité, hein, la triste actualité effectivement de Hong Kong. Mais une chose qui a été intéressante, c'est de voir justement ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Quelque part, le hack d'incivilité des Hongkongais pour lutter et pour manifester, dont... Et ça, c'est peut-être le plus intéressant. Comment les manifestants protègent leur téléphone avec ce fameux mode police? Et c'est peut-être quelque chose, c'est bon de se le rappeler hein, pour nous tous, puisque effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé, en tout cas en Chine, les autorités ont contraint Colin Chung, un manifestement hongkongais, à ouvrir son iPhone en lui pointant en fait l'iPhone sur le visage, donc en activant le Face App. Et du coup, les manifestants aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle le cop mode, que vous avez tous, en tout cas sur les iPhones, ceux qui ont des iPhones, c'est quand vous appuyez en même temps sur le gros bouton à droite et un des boutons à gauche de volume, si vous gardez appuyé suffisamment longtemps, ça désactive immédiatement le Face ID. Donc vous pouvez le faire dans la poche de votre pantalon, si jamais voilà, la police vous arrête ou si on vous cherche des noises, et du coup ça active le code secret. Code secret qu'on peut pas obliger à vous demander. Enfin, légalement, en tout cas à Hong Kong, on peut pas pointer le téléphone vers vous pour le déverrouiller. C'est intéressant parce que c'est justement ce que tu dis. En France, le Conseil constitutionnel a abordé la question dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et effectivement, les sages ont tranché, refuser de donner son code confidentiel de téléphone en garde à vue est bien passible de poursuites. Mais ça s'arrête pas là. Mais en juin 2019, dans le cadre de la même affaire, la Cour constitutionnelle a estimé que le fait de ne pas révéler le code de son portable n'était pas passible de poursuites parce qu'ils ont décrété que le code de déverrouillage d'un téléphone d'usage courant ne permet pas de déchiffrer les données ou les messages cryptés et, en ce sens, ne constitue pas une convention secrète d'un moyen de cryptologie en référence à l'article 432. Bon, je vous lis pas la suite parce que c'est du juridique. Mais en gros, oui, il y a une jurisprudence maintenant en France. On ne peut pas vous attaquer parce que vous avez refusé de donner le code de déverrouillage de votre téléphone. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien.
Ça se passera mal, c'est
ça
sûr.
Ça se passera mal, mais constitutionnellement, vous n'êtes pas obligé de le donner. Et je termine juste là-dessus, après je vous demande votre avis. C'est d'autant plus important par rapport à ce qui se passe à Hong Kong, parce que quand on est contre son gouvernement, là, on rentre plus dans des crimes, mais c'est de l'incivilité, et ça peut être important dans un pays de pouvoir garder ces informations par rapport à un gouvernement. Donc c'est là où effectivement la protection par code secret reste importante. Est-ce que vous, Marion et toi, vous connaissiez ce code mode je sais que t'as pas d'iPhone, Guillaume, mais Marion, elle a un iPhone.
Marion, je te laisse commencer si tu veux. J'ai des petits trucs à dire après.
Ok. Oui, je connaissais ces modes rapides pour pouvoir bloquer que ce soit le Touch ID ou le Face ID, pour éviter que les personnes soient forcées de dévoiler, en tout cas contre leur gré, qu'on prenne les empreintes ou le regard, enfin la tête. Donc, je trouve ça plutôt malin et bien de la part d'Apple d'avoir sécurisé les devices de cette manière. C'est là où on se dit que tous les gouvernements sont pas sont pas sur la même base quoi, de respect du consentement.
Guillaume, toi qui as un Android, est-ce que ce genre de mode existe sur Android?
Alors aucune idée. Sur iPhone, c'est un truc qu'effectivement j'aimais bien. Si je peux donner un conseil à des gens qui vont manifester, sait-on jamais. Effectivement, avoir un iPhone est pour le coup un petit peu mieux qu'un Android, dans le sens où on peut activer ce cop mode, ce mode police, pour ne pas faire en sorte qu'on vous force à déverrouiller votre iPhone avec votre visage ou votre empreinte digitale. Et en fait, tout ça, c'est lié, j'avais lu un article sur ça, bon, j'ai pas retrouvé l'article, mais ce que je vais expliquer, c'est très lié, c'est lié au fait de ne pas s'auto-incriminer quand on est en garde à vue, qui est un droit complètement fondamental. C'est-à-dire, en fait, c'est dans l'idée de vous permettre d'attendre un avocat et de ne pas vous-même, pendant une garde à vue, donner des éléments qui pourraient être utilisés contre vous. C'est la fameuse phrase quand il y a des gens qui sont arrêtés dans des séries où on leur dit « vous avez le droit de garder le silence ». En fait, c'est la même idée, c'est que vous avez le droit de ne pas révéler ce qu'il y a sur votre téléphone. Alors, beaucoup de gens, quand on parle de ça, sont là « mais t'as rien à cacher, tu peux montrer ton téléphone et tout ça ». Oui, mais c'est exactement la même chose que garder d'avoir le droit au silence et d'attendre un avocat. Et après, l'avocat vous dira quoi faire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et pour le coup, c'est un des trucs qui fait que j'aurais toujours plutôt tendance à quelqu'un qui hésite entre un Android avec Google et un iPhone, à prendre plutôt un iPhone rien que pour ce genre de feature, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et on le voit dans le cadre des manifestations à Hong Kong, ben voilà, c'est utile et que, ben oui, Apple, ils ont un peu pensé à ça. Ça fait écho à l'affaire qu'il y avait eu avec le tireur en masse, enfin le gars aux États-Unis, je me rappelle.
Oui, l'attentat terroriste, oui. Où Apple avait refusé au FBI de déverrouiller le téléphone puisqu'il n'avait pas le code.
Exactement. On est un peu dans le même genre d'esprit, c'est-à-dire de pas déverrouiller forcément le téléphone. Voilà, c'est très compliqué parce que c'est des affaires qui touchent beaucoup à l'émotion aussi, surtout dans le cadre de terrorisme. Mais on le voit, dans le cadre de manifestations, et c'est vachement bien d'avoir ça.
Tout à fait. On avance, on va parler, c'est pas un sujet plus léger, mais quand même un petit peu, des résultats boursiers. Je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour donner un petit peu le classement des smartphones de cette année, puisque généralement au mois d'août, j'hérite du rendez-vous tech et qu'il y a souvent les résultats du trimestre, donc on peut parler un petit peu de classement. Les choses à retenir, c'est que Samsung reste numéro 1 des smartphones. La première place est encore à Samsung, donc bravo Samsung. Pour la deuxième place, ça se tire la bourre entre Apple et Huawei. Huawei, malgré les deux balles dans le pied et les punaises qu'ont planté le commerce américain chez Huawei, Huawei affiche de très très bons résultats malgré ça et est passé donc en deuxième position. Ça se tire généralement la bourre avec Apple. Ce qui est intéressant avec Apple, c'est que en volume, les iPhones ne représentent aujourd'hui plus que 50% des revenus d'Apple. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent parlé de la vulnérabilité d'Apple qui était que trop de son chiffre d'affaires reposait sur les iPhones. Quelque part, les ordinateurs étaient devenus une toute petite portion des revenus d'Apple, sans parler des iPads et des Apple Watch qui étaient même pas, qui figuraient même pas dans les camemberts. Donc, ça fait baisser un petit peu effectivement les revenus, en tout cas ralentir la croissance d'Apple, qui a quand même bénéficié d'un point de croissance. Mais en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Apple, parce que ça veut dire que leur virage vers les services, notamment, marche plutôt pas mal. On sait aussi que l'Apple Watch et l'iPad commencent à bien se vendre, pas trop mal. Voilà, sur l'ensemble de ces données, est-ce que vous avez des réactions? Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé.
Pas grand-chose à dire de mon côté. Non, oui, de toute façon, on l'avait vu, que Apple se dirigeait de plus en plus vers les services, effectivement. Je pense que c'est la bonne stratégie. Après, non, rien de spécial à dire en plus.
Marion?
Moi, je suis juste impatiente de voir les services qui vont être lancés.
D'accord. Ben, justement, magnifique transition. On va parler de l'Apple Card, puisque effectivement Apple s'apprête à lancer aux États-Unis. Nous enthousiasmons pas trop pour les autres pays, mais s'apprête à lancer effectivement aux États-Unis la fameuse Apple Card, et on a pu du coup voir. Je recherche mon article, excusez-moi, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. On a pu voir les conditions dans lesquelles cette carte peut être utilisée. Et il y a des choses assez surprenantes auxquelles on ne s'attendait pas sur l'utilisation de l'Apple Card. Par exemple, il sera interdit avec une Apple Card d'acheter de la crypto-monnaie, mais encore plus étrange, des billets de loterie ou des jetons de casino. Alors, ça peut nous paraître étrange à nous, mais en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça existe aussi pour d'autres cartes de crédit, l'interdiction d'acheter avec cette carte de crédit de la crypto-monnaie. Et que, en tout cas, ça va être le contrat que les Américains, en tout cas, auront avec l'Apple Card. On apprend aussi que cette carte, ça on le savait déjà, elle sera à la fois virtualisée, mais aussi physique. Elle est assez belle, elle est en titanium, c'est ça, je me souviens plus. Je crois que c'est du titane.
Titane.
Oui, titanium, c'est dans des trucs de SF. elle sera en titane. Et il y a quand même un certain nombre de conditions pour pouvoir l'utiliser. Il faudra effectivement avoir un compte Apple. Il faudra activer la double authentification. Ça sera obligatoire. Et je crois que c'est tout.
Il ne faudra pas avoir jailbreaké l'iPhone.
Ah voilà, ça c'est important aussi. Un iPhone jailbreaké ne fonctionnera pas et enclenchera la désactivation de l'Apple Card. Dans les petits bonus qui peuvent être intéressants, il y aura effectivement du cashback. Vous serez récompensé pour chacun de vos achats. Si vous achetez des produits Apple, c'est quand même 3% de cashback. Ça peut être intéressant pour les gens qui achètent beaucoup d'Apple. Ça m'étonnerait qu'on ait les 3% en France, mais ça, on verra.
Oui, le cashback, c'est vraiment une pratique très, très répandue aux États-Unis.
Aux États-Unis. En France, bon, nous, on le voit, on a du cashback avec Revolut, mais c'est 0,1% des achats, donc c'est un peu ridicule. Alors que Revolut aux États-Unis, c'est 1% sur les achats, normalement. Tous les paiements que vous ferez avec l'Apple Pay, vous aurez 2% de cashback aux États-Unis et 1% sur toutes les autres transactions. Mine de rien, moi je vois mon budget d'achat Apple chaque année pour faire des tests sur la chaîne. Si je pouvais récupérer 3% là-dessus, ça me ferait plaisir. Hein.
Ouais, toi ça serait intéressant.
Ouais, moi ça serait intéressant. Donc voilà, je pense que ça va être une carte qui va pas vraiment changer le visage de la banque et du système bancaire mondial, mais ça va peut-être changer la vie des Apple fanboys qui auront enfin leur carte avec une magnifique pomme croquée en titane dessus. Est-ce que vous êtes tenté par une Apple Card ?
Pas du tout, déjà parce que je suis en train de m'éloigner un petit peu, tu le sais, hein, on en avait discuté, mais des grosses entreprises. Un peu déçu sur le fait, sur le fait que voilà, on peut pas acheter de la crypto-monnaie. Je trouve qu'Apple aurait pu avoir une force de proposition là-dessus. Donc voilà, bon, je pense que c'est trop tôt pour la crypto-monnaie.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que c'est Apple qui met son logo dessus, mais c'est Goldman Sachs qui a derrière. Hein. Bien sûr. Goldman Sachs, les crypto-monnaies, ils voudraient bien le faire, mais à leur sauce. Hein.
Ça leur fait peur parce que c'est de l'argent perdu pour eux, hein, potentiellement. Ouais. Mais voilà, je pense qu'avec dans une économie où on est de plus en plus, tout est de plus en plus numérique, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus un pas en avant vers les cryptos. Et le fait de là ne pas pouvoir en acheter, je trouve que c'est encore plus violent. Mais bon, après, c'est cool pour les gens qui ont des produits Apple et je serai encore chez Apple. J'aurais pourquoi pas été tenté par une Apple Card. Donc pourquoi pas.
Toi, Marion, qui sans être une Apple fangirl, et quand même plutôt dans l'écosystème Apple, est-ce que ça te tenterait d'avoir une Apple Card ?
Non, j'ai déjà trop de cartes là. Entre N26, Revolut et ma banque.
On a trop de cartes et pas assez d'argent à mettre dessus, c'est un peu le problème moderne.
Non, c'est quand même une prise de tête.
À quand les vidéos unboxing à la David Lafarge Pokémon, hein ? Moi, j'attends ça, Marion.
je fais une aparté, mais t'as vu qu'il a revendu toutes ses cartes Pokémon ?
J'ai pas du tout vu, YouTube, je suis de vraiment très peu. Donc
il a vendu. Non, mais je suis tombé. Dessus par hasard. David Lafarge a revendu toutes ses cartes Pokémon, quoi. Dans quel monde on vit, Guillaume ? C'est toi qui m'as fait découvrir David Lafarge, hein, quand même.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et tu en es ressorti plus grand.
Je ne m'exprimerai point sur ce sujet sans mon avocat.
Non, en vrai, je lui envoie beaucoup d'amour, David, parce que c'est quelqu'un qui a énormément souffert de plein de choses et qui ne mérite pas du tout tout ce qui lui est arrivé.
Non, et c'est vrai que c'est pas drôle. Je ne rigole pas de ce qui lui arrive. Après, c'est pas ma tasse de thé, mais je ne rigole pas de ce qui lui arrive,
Pour ceux qui ne connaissent pas rapidement David Lafarge Pokémon, c'était un YouTuber, je ne sais pas s'il fait encore des choses, qui ouvrait des paquets de cartes en vidéo. Voilà, il avait un grand, grand public il y a quelques années. Et effectivement, il est un peu moins populaire qu'avant. Tout simplement.
Bon, pardon pour effectivement ce dérapage, mais tu m'as fait réagir.
Je vous laisse dans votre aparté Pokémon.
Allez, on avance.
Terminé.
Ah pardon, excuse-moi.
Oui, la pauvre Marion.
Oh, pauvre Marion, pardon, on t'a coupé.
J'en ai une quand même.
Pardon.
Donc qu'est-ce que je disais ? Je disais oui, donc moi j'ai pas forcément envie d'avoir une carte Apple. Par contre, sur le fait des crypto-monnaies, ça ne me surprend pas ni de la part de Goldman Sachs, ni de la part d'Apple, hein, parce qu'Apple est quand même pas connu pour expérimenter des choses nouvelles avant que ça soit mature. Au niveau du grand public. Donc en fait, ça fait complètement sens que la carte ne supporte pas les crypto-monnaies pour l'instant.
Ouais, bien sûr.
Surtout que c'est une pratique qui se fait avec des cartes américaines. C'est pas les seuls à refuser de la crypto-monnaie. Oui. Hein. Il y a plein de cartes aux États-Unis où tu n'as pas le droit d'acheter de la crypto-monnaie avec.
Mais même en Europe, je ne sais pas l'état de l'Europe là-dessus, mais je serais surprise. qu'il y ait beaucoup de cartes à part, je sais que Revolut le fait. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de cartes qui l'autorisent.
Revolut, justement, j'en avais parlé. T'achètes pas directement. Enfin, c'est un système protégé de crypto-monnaie quand même. C'est pas, c'est pas de l'achat brut de crypto-monnaie en fait. On termine avec un petit sourire. Sommes-nous revenus aux grandes heures de I'm a PC, I'm a Mac? Eh bien, il semblerait, puisque Microsoft a fait appel à un acteur, et je ne mens pas, cet acteur s'appelle MacBook. Puisqu'en fait, son nom, c'est Mackenzie Book. Donc, ils ont fait appel à cet acteur pour faire des publicités pour la Surface. Donc, vous avez MacBook qui vante les mérites des Surfaces par rapport au MacBook. Donc, c'est bête, mais il fallait y penser.
Ça me fait bien rigoler, parce que là, je suis allé en Écosse il y a 2 semaines pour les vacances. C'était très cool. Et c'est vrai que voir des Macintosh partout, je dois t'avouer que j'ai eu un petit sourire un peu débile. C'est de « Oh, Macintosh !» Donc, on est totalement dans ça, et je comprends, et l'idée est pas bête, en vrai.
L'idée est pas bête. Alors, pour préciser, parce que quand j'ai fait cet article, je m'étais un peu trompé, c'est surtout des publicités pour la Surface Laptop. Donc, vraiment, parce que moi, bon, j'ai cru comprendre que Microsoft avait positionné l'ensemble de la gamme Surface non plus comme des tablettes, ordinateurs, mais vraiment comme des ordinateurs dont l'écran peut se détacher. Mais il semblerait que là, les pubs soient spécifiquement sur le Surface Laptop comparé au MacBook pour vanter les mérites en termes de batterie, en termes de puissance, etc. Donc, il ne s'agit pas des Surface Book. Et c'est quoi l'autre Surface et des Surfaces...
Pro, non ?
Ouais, Surface Pro et Surface Book. Mmh. Ouais. La Book étant la Pro et la Pro étant la Book. Chez Surface, ouais, c'est inversé, en fait.
Quel dommage que sur ces ordis, ils n'aient pas mis plus de ports, parce que c'est vraiment la grosse bête noire de ces ordis. Il y a très peu de ports. Je crois qu'il n'y a même pas de Thunderbolt.
Ils ont amélioré quand même au niveau de la Surface Book. Pour moi, le plus gros problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est pour ça que Microsoft ne les positionne plus comme des tablettes. C'est que oui, tu as des fonctions touch et un écran qui se détache, mais on est très en deçà d'une véritable expérience tablette, quoi.
À l'iPad.
Bien ou sûr. Même de tablettes Android, hein, qui, à mon avis, sont un petit peu mieux foutues. Mais bon, après, ça, c'est un avis. On en revient au sujet. MacBook qui fait quand même la pub de Surface. Je sais pas où ils sont allés chercher cet acteur. Moi, je l'avais jamais vu, mais c'est pas mal du tout. On attend donc maintenant la réponse d'Apple. Est-ce que ça vous inspire un dernier mot, Marion et Guillaume ou...
Marion, vas-y.
Je trouve ça rigolo, c'est très très nerdy comme campagne publicitaire. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui Apple soit sur le même créneau quand on voit la dernière campagne de pub qui vise quand même un peu plus l'aspirationnel, quoi.
Mmh. Tu parles de la pub dans les concerts là.
Oui, les backstage concerts en suivant les artistes filmés avec des iPhone, c'est les iPhone 5 XS pardon.
10S, ouais. T'as pas le droit de dire XS.
Ok, iPhone 10S, donc c'est shot on iPhone 10S, 10S.
C'est toujours compliqué. Hein.
C'est bien compliqué là.
Je me rappelle des vidéos YouTube du sujet 10S, on me disait c'est pas 10S, c'est XS, mais l'inverse. Bon, bref.
C'est la raison pour laquelle t'as quitté YouTube d'ailleurs.
Je m'excuse.
Non, je pouvais plus. Voilà. Je ne pouvais plus de ces critiques du XS ou du 10S. Non, et j'ai toujours trouvé qu'Apple était un peu meilleur sur les publicités, de faire plus de l'inspirationnel, de mettre en situation, en contexte. C'est un peu ce que fait Coca-Cola avec ses pubs de Noël, hein. Ils vendent pas le Coca-Cola, ils vendent l'environnement autour du Coca-Cola et le fait que ça te mette bien. Et c'est exactement ce que fait Apple, et je pense qu'à long terme, c'est plus pertinent. Mais ils peuvent faire ça parce qu'ils sont déjà très implantés et très...
Oui, tout à fait. Après, Microsoft est plus dans une position de challenger avec ses Surfaces. C'est un... Et ça prend. Hein. Les Surfaces se vendent pas mal. Et je trouve que, en tout cas, en termes de hardware, les produits sont plutôt bons, de ceux que j'ai testés. Les produits Surface m'ont laissé une très bonne impression. Et que maintenant que Microsoft les a un peu repositionnés au niveau marketing... on a une gamme intéressante et cohérente. Un petit peu cher à mon goût, mais...
C'est des jolis produits, puis à la Fnac, ils sont bien exposés, et c'est bête, mais rien que ça,
Plus envie. Ils ont compris un certain enseignement Apple, prix haut, mais dans un bel écrin. Mais justement, je leur reprocherais, il faudrait qu'ils soient un petit peu moins chers que les produits Apple. Apple pouvant, enfin, le consommateur Apple étant habitué à payer le prix Apple, ça va, mais le consommateur Microsoft peut-être un petit peu moins.
Peut-être un peu moins, ouais. Tout à fait.
En tout cas, un grand merci à vous deux. De m'avoir aidé à tenter de remplacer Patrick, qui est bien sûr irremplaçable. J'imagine les commentaires. Patrick revient, Jérôme a fait n'importe quoi. Je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Mais c'est pas grave, j'assume. En tout cas, ça a été un plaisir de présenter avec vous. Rapide de tour, où est-ce qu'on peut vous retrouver, toi, Guillaume? Qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais?
Ah, grande question. Moi, je suis reparti dans le développement web, donc j'ai retrouvé du boulot. C'est vrai que je suis en train de quitter un peu les réseaux sociaux, donc où est-ce qu'on peut me retrouver? C'est une grande question. On va dire...
Donne ton adresse, hein, sinon. Hein.
Non. On va éviter, hein. Sur Instagram, guillaume-du-bas/, parce qu'il y a un jour où je referai des photos dessus. Mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je reviendrai un jour.
Je reviendrai.
Ta-ta-ta.
Et toi, Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes news?
Mais c'est étrange, on peut me retrouver comme Monsieur Jérôme Kainborg d'ailleurs sur YouTube.
Oh là là.
Tech.
Mon Dieu, ouais, mais quelle chaîne de qualité.
C'est vraiment incroyable.
Et également, certains matins, tu présentes le live de Nowtech, j'ai entendu dire. Donc, sur l'Actu Tech, l'émission Techscope qui d'ailleurs s'arrête en août, mais va reprendre en septembre.
Jérôme Kainborg, le seul qui fait la promo d'une émission qui s'arrête pendant trois
semaines. Exactement. Exactement. Oui, alors, je donne quand même les raisons de l'arrêt. Nous arrivons bientôt à notre numéro 1000. C'est quand même pas mal, quoi. Hein.
Il est à la bourre.
Voilà, on se donne un petit peu de temps et on a besoin d'un petit peu de temps pour préparer la suite du numéro 1000 et ce fameux numéro 1000. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que l'émission va devenir? Voilà, c'était ma petite page d'auto-promo autour de Nowtech ouverte par Marion. Sur ce, pour ceux qui sont encore en vacances et qui écoutent ça en vacances, eh ben, on vous les souhaite bonnes. Ceux qui sont vous revenus, eh ben, on vous souhaite du courage pour la reprise. Et ceux qui sont partis en vacances, tout vient à point à qui sait attendre. Et sur ce bon mot, on va se quitter. On va essayer de se rafraîchir, quoique le temps s'est rafraîchi. Hein. La canicule est un petit peu passée. On attend la prochaine. Et je vous remercie encore chaudement tous les deux. Je remercie aussi Patrick qui m'a fait confiance. J'espère qu'il ne se tordra pas de douleur pour présenter, pour prendre en charge son enfant, le rendez-vous tech, pendant le mois d'août. Faire du babysitting.
Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation.
Et merci Jérôme.
Salut tout le monde. Ciao, ciao.
Salut, ciao.